France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Être témoin d'un événement, cela ne signifie pas toujours comprendre véritablement ce qui se passe. Par définition, dans le cas du déclenchement d'un événement historique, on n'en saisit pas tout de suite l'importance, on peut se tromper dans l'analyse immédiate. Cette année-là, à Barcelone, étaient prévues les Olympiades populaires, en opposition aux Jeux Olympiques de Berlin. Mais, place de Catalogne, noir de monde, on était au premier rang pour assister au début de la guerre civile espagnole. Des témoins, des visiteurs ou des habitants français en permanence, habitant Barcelone. Soyez témoins, première diffusion sur la chaîne parisienne, le 5 janvier 1956.
Soyez témoins, une émission d'André Gillois.
Lors de notre première émission, Jean Berlet avait cité, parmi les événements auxquels il avait assisté, la première journée de la guerre d'Espagne. Et j'ai demandé aux auditeurs qui avaient participé au même événement de bien vouloir m'écrire. Un grand nombre m'ont écrit, quelques-uns vont apporter tout à l'heure leur témoignage. Je vais d'abord demander le sien à Jean Berlet, mais il faut d'abord se rappeler que cet événement remonte à 1936, c'est-à-dire que cela va faire bientôt 20 ans, et qu'évidemment il y a une partie de nos auditeurs, ceux qui ont aux alentours justement de 20 ans, qui ne se rendent peut-être pas compte de ce que ça a représenté à ce moment-là. Cette guerre qui est maintenant un événement historique, qui a une importance considérable dans l'histoire contemporaine, puisque c'est là que se sont affrontées pour la première fois les forces d'Hitler et les forces anti-hitlériennes, au début, ce n'est apparu que comme une révolution à laquelle on croyait au départ si peu que les témoignages même que nous allons entendre le prouvent, puisque c'est le 19 ou le 20 juillet que devaient avoir lieu à Barcelone les Jeux Olympiques et que l'on ne pensait pas que ce jour-là allait éclater une guerre qui allait bouleverser l'histoire du monde. Donc, en ce jour de juillet 1936, Jean Berlet, vous étiez à Barcelone. C'était quel jour exactement ?
La révolution a éclaté à l'aube du dimanche 18 juillet 1936. Et je me trouvais là parce que je voulais faire un tour en Espagne avec deux de mes camarades journalistes, Claude Blanchard, qui était à Paris Soir, qui est mort en revenant d'un reportage en Russie après la guerre, noyé dans la Méditerranée, et Paul Caldagues, qui était au Figaro. Et on était partis en auto pour voir des courses de taureaux, pour entendre des chansons de gitanes et boire du manzanilla, bien entendu, et nous ne nous doutions pas de ce que nous allions voir. Je dois dire qu'à Villefranche-du-Rouergue, que j'achetais le petit Parisien, et il y avait un petit article assez inquiétant sur la situation en Espagne, on prévoyait des troubles. Je l'ai mis dans ma poche discrètement pour ne pas interrompre le voyage, pas le montrer à mes camarades. Et nous sommes arrivés dans l'après-midi dans cette ville énorme qui est, je crois, plus étendue que Marseille, qui est un immense port avec des immenses avenues qui descendent toutes à la mer. Et nous avons pensé qu'il fallait choisir un bel hôtel bien en vue. Et nous avons choisi l'hôtel Colomb, qui ne nous paraissait que bien situé, alors que pour les militaires, il était dans une situation stratégique. En effet, dans l'après-midi, nous nous promenions dans cette ville épatante et nous avions retenu des places pour la course de taureaux du lendemain et nous avons remarqué une certaine agitation dans les rues, une foule énorme et nous nous disions, c'est la plus grande ville d'Espagne, ça doit être comme ça. C'est comme Naples ou Marseille, ces grandes villes méditerranéennes. Et lorsque, en dînant à la terrasse sur un trottoir le long d'une rue bordée d'arcades, un ouvrier est passé près de nous et sans nous rien demander, sans interrompre sa marche, il a pris un pain dans la corbeille qui était sur notre table, il s'est mis à le mettre dans sa poche et plus loin à le manger. Nous nous sommes dit, diable, eh bien, la population est sous-alimentée ici. Et des groupes de plus en plus nombreux se formaient dans les rues. Le soir, bien entendu, nous sommes allés voir les danses espagnoles, qui ont ceci de curieux à Barcelone, c'est qu'elles sont dansées par des jeunes gens ravissants, habillés en gitane, avec des peignes, des mantilles, et dans ce qu'on appelle le barrio chino, qui est une espèce de Montmartre barcelonais. Et là, nous avons été très frappés en voyant l'énorme foule qui barrait les rues et qui nous a arrêtés dans notre taxi. Ils nous ont regardés, ils nous ont demandé nos papiers. C'était des milliers de jeunes gens en bras de chemise, et d'hommes naturellement. Et l'un d'eux a dit « Français, ce sont des Français, les Français c'est la République ». Nous étions à ce moment-là sous un gouvernement républicain espagnol, il ne faut pas l'oublier, un gouvernement espagnol de Front Populaire. Et nous avons demandé des explications à notre chauffeur, il nous a dit « On craint un soulèvement ». Car il y avait eu le meurtre de Calvo Sotelo quelques jours avant, qui était un leader monarchiste, et la température était montée très vite.
On le sentait donc.
Ah, on sentait qu'il y avait quelque chose, et puis il y avait un grand déploiement de gardes mobiles, et de gardes d'assaut, et de gardes civils avec leurs petits chapeaux en cuir bouilli, très curieux sur la tête. Et nous sommes rentrés dans notre hôtel, et le portier nous a dit « Voilà vos places pour la course de taureaux de demain ». Il était très tard, parce qu'en Espagne, on se couche très tard, il faisait très beau, très chaud. Et le lendemain matin, Blanchard est entré dans ma chambre en me disant « Viens voir, on tire sur la place ». Alors, nous sommes approchés du balcon, et je lui dis « Tu sais, les Jeux Olympiques populaires vont s'ouvrir aujourd'hui, peut-être qu'ils tirent des pétards, c'est peut-être des feux d'artifice, je ne sais pas quoi ». Et à ce moment-là, nous avons aperçu une compagnie de gardes mobiles en bleu qui reculait sur la place, en tirant contre un ennemi qu'on ne voyait pas. Et tout à coup, on a vu arriver un régiment d'infanterie, des jeunes gens du contingent, comme on dit maintenant. Et nous nous disions, mais qu'est-ce qu'ils ont à se tirer les uns sur les autres? Lorsque tout à coup, ils sont retournés vers l'hôtel Colomb et ont commencé à tirer dans la façade de l'hôtel. Nous sommes jetés rapidement sur le parquet, tandis que les balles claquaient au-dessus de notre tête et allaient se perdre dans le plafond. Et on ne comprenait toujours rien à ce qui se passait. Et les voyageurs étrangers, il y avait des Belges, des Anglais, étaient tout à fait étonnés, les gens sortaient de leur chambre, tout le monde se parlait dans le couloir, et tout à coup, un régiment, celui-là même qui tirait sur la garde mobile, est entré dans l'hôtel avec des mitrailleuses et a commencé à s'installer dans les chambres de la façade et un peu partout. Alors, moi, fou furieux d'être dérangé comme ça, ils sont complètement fous, j'ai attrapé un officier par le bras et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors il m'a dit, en excellent français, « Ça n'est rien ». Je lui ai dit, « Comment ça n'est rien? Vous nous sortez de nos chambres et on nous tire dessus, car on continue à nous tirer dessus de la place. » Il m'a dit, « C'est la révolution ». Je lui ai dit, « Ben parfait, la révolution ». Il m'a dit, « Mais ça ne va pas durer longtemps ». En effet, le soir même, il était fusillé, et ça n'a pas duré longtemps pour lui, malheureusement. Et à ce moment-là, la population ouvrière, voyant que l'hôtel Colomb était occupé par un régiment d'infanterie régulier, a compris que c'était le soulèvement dont on parlait. On ne savait pas encore qui était Franco. Franco devait arriver d'Afrique du Nord, du Maroc espagnol, des Canaries, et il y avait d'autres généraux espagnols qui devaient prendre le commandement de l'insurrection en même temps dans toutes les grandes villes. Alors, nous ne nous doutions pas de ça du tout, nous. On a commencé à se douter que c'était tout de même très important, en voyant une foule immense armée n'importe comment, commençait à faire le siège de notre hôtel.
Si je comprends bien, le régiment qui avait pris possession de l'hôtel Colomb dans lequel vous étiez, c'était un régiment commandé par des officiers insurgés.
Et qui n'avaient rien dit à leurs soldats, car nous sommes mis à interroger les soldats qui disaient « Nous défendons le gouvernement ». On leur avait dit ça.
C'était le contraire.
C'était le contraire.
Et la foule massée sur la place, c'était au contraire les ouvriers, les syndicalistes qui venaient prendre parti pour le gouvernement contre l'armée insurgée.
Exactement, et qui voulaient prendre l'hôtel Colomb, qui était un endroit très important, qui était une espèce de forteresse, qui fait que nous étions pris, nous les touristes, dans l'intérieur. Moi je me disais toujours, je disais à Blanchard, à Caldagues, peut-être que ce sera fini à midi. Je me disais, dans l'Amérique du Sud, ils changent de gouvernement rapidement, c'est peut-être comme ça en Espagne. On aura peut-être le temps d'aller à la course de taureaux, qui doit commencer à 5 heures. Ça a duré plus de 2 ans. Saint-Jean, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de course de taureaux.
Mais vous êtes resté combien de temps?
Alors, nous sommes restés toute la journée en attendant les fluctuations de la bataille. Et il y avait beaucoup de ces jeunes soldats qui s'évanouissaient de peur. Et je vois encore une ravissante jeune Française qui se baladait avec une carafe d'eau à la main et qui aspergeait les soldats en leur disant « Allez, allez, un petit peu de courage !» Mais on ne comprenait pas du tout, au point de vue politique, ce qui se passait. Nous l'avons compris que quand le peuple et la garde civile et la garde mobile ont pris notre hôtel. Ils l'ont pris comme une position fortifiée. Nous, on s'était mis dans la chaufferie, parce qu'on s'était dit, dans le bar, on va recevoir des grenades dans la figure. Ce qui nous a inquiétés, c'est le comportement des gens qui habitaient l'hôtel et qui étaient espagnols. Eux avaient l'air d'avoir très peur, parce qu'eux savaient. Car nous l'avons appris ensuite, l'hôtel Colón était le rendez-vous des officiers insurgés, des officiers franquistes. Et tout à coup, le combat qui a duré toute la journée s'est terminé car le peuple est entré, précédé heureusement par la garde civile qui avait une vieille habitude des pronunciamentos et beaucoup de sang-froid. Ils ont fait aligner les officiers dans un salon, on ne les a plus revus, on les a emmenés à la citadelle de Montjuïc pour se faire fusiller. Et alors les soldats, eux, on leur disait « faites-vous désarmer ». Alors je suis allé trouver un officier, je me mêlais de ce qu'il ne me regardait pas, mais enfin je suis allé trouver un des officiers de la garde mobile en lui disant « Vous n'allez pas fusiller les soldats quand même ?» Oh, il m'a dit « Non, ce sont des enfants d'abord, et puis ensuite ils ne savaient pas du tout ce qu'on voulait leur faire faire, on va leur prendre leurs armes, et puis on va les renvoyer dans leur famille. » Alors ce qui était extraordinaire, ce qui m'a rappelé une gravure de la révolution de 1830 ou de 1848 à Paris, c'est que le peuple était entré en bras de chemise, les femmes, les hommes, les enfants, et se servait, ramassait les armes et construisait des barricades tout autour de la place. Car la bataille continuait aux centrales téléphoniques et puis à la préfecture.
Car ce qu'il faut dire pour les gens qui ne connaissent de l'histoire que ces résultats, à savoir la victoire de Franco et donc des insurgés, il faut leur rappeler qu'à ce moment-là, à Barcelone, les insurgés ont été battus. Et que pendant quelques jours...
Pendant très longtemps, Barcelone est la dernière ville qui était réduite. L'hôtel était naturellement intenable. J'avais un superbe costume en tweed qui avait disparu sur le dos d'un soldat. Tant mieux si ça l'a sauvé. Il m'a laissé son uniforme et ses espadrilles à la place. Et puis, il y avait du sang partout. C'était épouvantable comme aspect. C'était sinistre. Sinistre. C'est pas joli, la guerre civile, vous savez. Et on mettait le feu à la cathédrale. Pendant ce temps-là, les maisons brûlées. Il y avait des chevaux, des mulets de tués sur la place, les pattes en l'air. Et nous sommes allés dans une autre pension de famille le soir, ne sachant que faire ni où aller. On ne pouvait même pas aller au consulat de France. C'était la bataille de rue avec des barricades. Et sauvage, sauvage. Alors, nous sommes allés dans une pension de famille et pleine d'Espagnols. Alors, il y avait des Espagnols qui étaient franquistes et des Espagnols qui étaient gouvernementaux. Alors, au fur et à mesure qu'un parti triomphait dans une des villes, il prenait la radio. Première chose à faire, il prenait la radio. Et il annonçait sa victoire. Alors, selon que la victoire était de droite ou de gauche, les gens qui étaient dans la pension de famille pleuraient ou poussaient du hurlement de joie. C'était quelque chose de stupéfiant à voir pour des Français. Alors, nous avons appris comme ça, le soir même, que Barcelone restait aux mains du gouvernement, ainsi que Madrid. Ce qui était excessivement important, c'était les deux villes les plus importantes. Seulement, l'insurrection franquiste avait réussi à Séville, ce qui était également très important, et dans d'autres villes comme Salamanque et Saragosse. Nous sommes restés là en nous disant « c'est plus grave que nous croyons ce matin, mais nous ne nous doutions pas que c'était aussi étendu et que ça durerait aussi longtemps. Nous pensions que le gouvernement, ayant à la fois la capitale et la plus grande ville, serait rapidement maître de la situation, ce qui ne s'est pas du tout passé, et Franco a terminé victorieusement au bout de 2 ans. Ce qui était assez cocasse, extraordinaire, c'est que j'ai rencontré un journaliste qui était reporter pour les Olympiades populaires, et il est entré, je ne sais pas pourquoi, dans notre hôtel pension de famille, et il m'a dit, vous êtes complètement fou de rester là, c'est un quartier chic. Comme l'insurrection est une victorieuse, il faut aller dans les quartiers insurrectionnels, c'est-à-dire les quartiers populaires. Alors on lui a dit, mais nous ne connaissons personne. Il a dit, mais dans mon hôtel, il n'y a rien que des chefs communistes, je vais leur dire que vous êtes des Français, républicains, c'est parfait. Alors, le chef communiste catalan est venu me chercher dans une auto, je crois que ça s'appelait Arlandis, un jeune homme charmant, et il m'a fait monter dans sa voiture, qui était décorée au lait chaud de faucillé de marteau. Il a pris ma valise, il l'a mise à côté de moi. Et comme il n'y avait pas de place, il s'est assis sur mes genoux. Et alors, c'est ainsi que j'ai traversé tout Barcelone, au milieu d'une foule immense, victorieuse, qui brandissait le poing, avec le chef communiste sur les genoux, et un jeune Anglais qui conduisait la voiture. Alors nous sommes arrivés, Blanchard, Caldagas et moi, dans l'hôtel où était le quartier général des communistes et des anarchistes.
Il y avait une foule immense, pieds nus, torse nus, dans des positions héroïques, des postures révolutionnaires, des barricades, des pansements sur le front. Et on continuait à tirer de tous les côtés. Il y avait des tireurs sur les toits, comme à Paris en 1944. Et ce qui est le plus cocasse au milieu de tout ça, c'est que dehors, c'était la guerre civile, et dedans, les garçons en veste blanche mettaient le couvert et nous passaient la carte en disant « qu'est-ce que vous voulez ?» Toujours pas de course de taureau, bien entendu. Ça a duré comme ça plusieurs jours, jusqu'à ce que le gouvernement français, tout de même, s'est aperçu et s'est rappelé qu'il y avait 1500 Français, athlètes populaires, qui étaient là, et que les Jeux Olympiques...
Il
n'est plus question. Alors, on a envoyé 2 paquebots, et nous sommes allés sur le port... qui était couvert d'une foule immense, qui chantait l'International, qui applaudissait le drapeau français, qui criait « Vive la Francia !»« Viva la Repubblica Francia !» Et il y avait un croiseur britannique qui avait mis un haut-parleur qui jouait des foxtrots pour couvrir tout ça avec les officiers en blanc qui étaient tout le long du bastingage qui regardaient tout ça à la jumelle. C'est un événement, et puis c'est une vision stupéfiante, car... on n'a encore rien vu de pareil en France. La libération était tout petite à côté de ça. C'était une guerre d'une sauvagerie incroyable.
Eh bien, écoutez, vous nous avez raconté ça. Je ne vais pas vous demander de raconter toute la guerre d'Espagne.
Non,
car
il n'y aurait
pas trop longtemps. Mais ça, ce sont des souvenirs véritablement personnels, des souvenirs vécus. Et je vais demander aux personnes qui ont assisté comme vous et qui sont venues pour en parler de bien vouloir m'apporter leur témoignage. Bonjour, madame. Vous étiez donc à Barcelone, vous aussi, en juillet 1936.
Oui, à l'occasion des Olympiades populaires.
C'est cela. Et quel hôtel étiez-vous descendu ?
Dans un petit hôtel qui donnait sur la place... la rue donnait sur la place de la Catalogne,
vous étiez
sur
donc
la droite.
À 2 pas de cette fameuse place.
Près de l'hôtel Colomb.
Tout près de l'hôtel Colomb.
Oui.
Vous êtes arrivé le 18.
Le 17 au soir.
Le 17 au soir.
Et avec une réception assez... surprenante. Nous ne savions pas où aller et nous avons été dirigés les uns dans des petits hôtels, ceux qui accompagnaient plutôt les sportifs et les sportifs eux-mêmes au Palais des Sports.
Oui.
Le soir, nous sommes allés sur la Rambla.
Il faudrait peut-être dire ce qu'est la Rambla pour les auditeurs qui ne le savent pas.
La Rambla, c'est une avenue très vaste, très spacieuse qui débouche d'un côté du port et qui remonte jusqu'à la place de la Catalogne.
C'est l'avenue entre la place et le port.
Et le port.
Alors, vous étiez donc en train de vous promener là le soir.
Le soir, très tard, comme il est d'usage en Espagne. Et un de nos compagnons, connaissant l'espagnol, achète un journal et s'étonne de voir des blancs, la censure.
Oui.
Alors, c'est déjà une chose assez surprenante. Ensuite, nous sommes allés dans une boîte de nuit pour voir un peu l'atmosphère espagnole.
Oui.
Nous sommes rentrés assez tard et à ce moment-là, tous les occupants de l'hôtel semblaient très agités. La radio donnait à plein, puis nous nous couchons. Et le matin, nous sommes réveillés par une grêle sur la verrière qui desservait les chambres.
Oui.
Je me précipite dehors. Le garçon d'étage me fait rentrer en vitesse. L'un d'eux dit, mais c'est une salve qu'on fait en notre honneur. En fait, de salve, n'est-ce pas ? C'était tout à fait autre chose.
C'était pas en votre honneur.
Non. Et le matin, n'est-ce pas, tout était barricadé, les fenêtres, les portes, n'est-ce pas, de l'hôtel, tout était barricadé. Enfin, on a pu introduire tout de même un blessé. Alors là, nous avons compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas.
Et vous ne vous en étiez même pas douté à la lecture des journaux, même censurés, que votre camarade avait pu avoir entre les mains.
Eh bien, n'est-ce pas, nous pensions que c'était assez commun en Espagne, n'est-ce pas, d'avoir des manifestations un petit peu
bruyantes.
Oui, c'est ça. Et alors, nous étions, non, pour ma part, n'est-ce pas, peut-être les hommes, peut-être, mais moi, je n'étais pas venu pour ça.
Bien entendu. Et puis, on imagine mal l'importance que peut avoir un événement auquel on participe. On ne le croit pas d'abord.
J'étais sans lieu de me douter de cela, sans quoi je serais resté en France, bien entendu.
Bien entendu. Et alors, le lendemain, vous vous êtes trouvé donc calfeutré dans votre hôtel. Est-ce que vous en êtes sorti ?
Ah, pas du tout. N'est-ce pas, nous entendions seulement les roulements d'auto, n'est-ce pas ? Et puis alors, c'était l'inoccupation surtout qui nous pesait. Puis le lendemain, tout de même, la curiosité, n'est-ce pas, m'a poussé aussi à aller voir, à mettre mon nez dehors. Et alors, qu'est-ce que j'ai pu voir ? Des douilles de balles, comme il y a des feuilles en automne. La rue était jonchée
De douilles de balles. On ne tirait plus à ce moment-là.
Moins. Et mes camarades allaient avec des mouchoirs blancs, n'est-ce pas, dans la rue, en les agitant, pour qu'on leur tire par-dessus. Parce qu'on tirait de partout, aussi bien de la cave que, j'allais dire, du grenier, mais enfin des mansardes, tout au moins. Mais enfin, ça durait comme ça jusqu'au dimanche. Le dimanche, il y avait une véritable accalmie.
Le dimanche, c'était quelle date ? Est-ce que vous vous rappelez ?
Alors, n'est-ce pas, jeudi 18, d'après ce que je crois, jeudi, c'était bien cela, jeudi 18.
Ah, mais je ne sais pas, je n'y étais pas, moi,
jeudi, attendez, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça faisait peut-être le 21, peut-être.
Le 21.
Je ne sais pas exactement. Enfin, toujours est-il que le dimanche, n'est-ce pas, la place de la Catalogne était noire de monde. Tout le monde s'était permis
de revenir là.
De revenir. Je me suis hasardée, pour ma part, à aller jusqu'à l'hôtel des sports, au palais des sports, là où il y avait le gros des sportifs. Mais à ce moment-là, une rafale de mitraillettes a fait que je me suis couchée par terre et que mes camarades ont joint le métro. Moi, je suis allée vers une caserne proche. J'ai pu réintégrer la place de la Catalogne avec un camion. Arrivée là, ça a été encore pire. Une mitraillade extraordinaire, épouvantable. Mon fils était près de moi, nous nous sommes précipités dans un magasin qui était ouvert, on a fermé
le
rideau de fer sur nos talons, et nous avons attendu que ça se passe, n'est-ce pas ? Puis à la nuit tombée, n'est-ce pas, nous avons pu regagner notre hôtel. Alors là, de ce jour-là, je n'ai
plus... On n'en est plus sorti.
Le mercredi matin, une charrette à bestiaux est venu nous chercher, nous a emmenés sur le quai. Nous avons attendu presque toute la journée, jusqu'au soir, pour prendre le bateau. Et là, alors nous sommes revenus jusqu'à Marseille, en faisant quelques escales la nuit.
Et pendant tout le temps que vous étiez resté calfeutré dans votre hôtel, vous n'étiez au courant de rien de ce qui se passait, ou est-ce que vous saviez tout de même à ce moment-là ce qui en était ?
Là, oui, nous avons pensé tout de même qu'il y avait quelque chose de très sérieux, mais nous, pour ma part, n'est-ce pas, vraiment pour ma part, je n'y ai rien compris. Absolument rien. C'était la confusion la plus complète.
Bon. Merci beaucoup, madame. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous devant ce microphone, si vous le voulez bien. Voulez-vous me dire votre nom ?
Monsieur Gaston Georges.
Vous étiez donc, vous me l'avez écrit, à Barcelone en juillet 1936.
Oui, monsieur.
Alors, vous y étiez allé parmi les athlètes, parmi les journalistes. À quel titre étiez-vous là-bas ?
Eh bien, voilà, je faisais partie de la délégation de la Fédération française de lutte qui était partie à Barcelone pour participer aux Jeux olympiques populaires.
Vous êtes arrivé là-bas à quelle date ?
On est arrivé là-bas le samedi soir, vers les 7 heures.
Et vous êtes descendu à quel hôtel ?
Eh bien, nous sommes descendus à un hôtel qui s'appelait l'Hôtel Doré. Nous n'étions pas logés au même endroit que les autres délégations sportives.
Alors, qu'est-ce que vous avez vu de cette première journée de la Révolution ?
Eh bien, en arrivant à la gare, nous avons traîné un petit peu et nous avons été nous asseoir à la terrasse d'un café. Et machinalement, j'ai levé les yeux en face de moi. Et j'ai vu sur le toit de la gare des petits canons sur roues, peut-être des 75 ou même un peu plus petits. J'ai été un petit peu surpris. J'ai fait part de cette observation à mes camarades. Et, mon Dieu, on n'y a pas attaché tellement d'importance. Ensuite, nous sommes allés alors à ce moment-là à notre hôtel. On nous avait préparé un dîner. Et après le dîner, nous avons décidé de sortir. Nous avons bien remarqué un petit peu de brouhaha, un petit peu de bruit dans la ville, mais enfin, nous n'y avons pas attaché tellement d'importance. Nous sommes donc sortis, et vers les 10h30, on a entendu beaucoup de bruit, on a vu une grande foule, et on a vu un monsieur dans une voiture qui haranguait tous les gens qui étaient là, et on nous a dit que c'était monsieur Companys, de la généralité de Catalogne. Nous avons gardé, nous nous sommes encore un petit peu promenés. Et un petit peu plus tard, je ne sais pas, il était peut-être minuit environ. Notre hôtel était situé à l'angle d'une rue et presque en face, il y avait une armurerie. Nous avons vu des gens qui sont arrivés, qui ont défoncé l'aventure et qui se sont emparés de toutes les armes qu'il y avait dedans, fusils de chasse, enfin tout ce qu'ils ont pu trouver. Nous avons d'abord été un petit peu surpris et à ce moment-là, nous avons interrogé les gens qui étaient autour de nous et ils nous ont dit que se présentait une révolution, peut-être pas exactement une révolution, mais enfin une manifestation politique. À ce moment-là, il était déjà un petit peu tard. Nous sommes encore restés un peu dans la rue et nous sommes rentrés ensuite à notre hôtel. Nous nous sommes couchés le lendemain matin de très bonne heure. Je pense qu'il devait être vers les 5 heures. Nous avons entendu une fusillade, même d'une canonnade, et nous sommes levés, évidemment. Nous avons regardé aux fenêtres et on a vu des tas de gens qui descendaient en courant, des fusils à la bretelle ou à la main. Et nous avions l'intention de sortir. Évidemment, on nous a prévenu que c'était peut-être pas tellement prudent. Mais enfin, vous savez ce que sont les Français, il y avait du bruit, il fallait aller voir ce que c'était. Alors nous sommes descendus, nous avons vu la même chose, beaucoup de scènes de pillage, de magasins, et notamment de magasins où il pouvait y avoir des armes, c'est ce que nous avons remarqué. Nous sommes arrivés, il était déjà très tôt en ce moment-là, il était peut-être 7h30. Nous sommes arrivés sur la place de Catalogne. Et là, évidemment, il y avait encore beaucoup de monde, et jusqu'à ce moment-là, c'était assez calme. Nous nous sommes promenés, nous avons croisé des voitures avec des gens, des voitures, des camions aussi, et des gens couchés sur les garde-boue, enfin l'image que nous avons vue à la Libération, avec des fusils qui regardaient à droite et à gauche, mais quelques coups de temps à autre, après la mitraillade du matin, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes qui paraissaient au moins assez agitées, peut-être même un peu plus que les hommes. Nous sommes rentrés, je crois, nous avons déjeuné et nous sommes sortis. Je crois que c'est à ce moment-là que sur la place de Catalogne, il y a vraiment eu une bataille. C'était assez curieux parce que ça s'est produit à plusieurs reprises et aussitôt qu'il y avait un coup de feu, d'autres répondaient et si ça s'envenimait un petit peu, tous les gens se sauvaient. Dans les rues envoisinantes, on se cachait, et on faisait également la même chose. Mais 10 minutes après, si on n'avait plus rien entendu, la place se trouvait encore noire de monde, les pigeons redescendaient, et on avait l'impression que c'était un dimanche et que tout le monde se promenait. Une nouvelle pétarade et exactement la même chose.
Et vous-même, vous ne vous rendiez pas compte de ce qui se passait?
On commençait à se rendre compte un petit peu de ce qui se passait tout de même. Oui. Mais enfin, ça ne paraissait pas tellement extraordinaire. On ne figurait pas que c'était une révolution.
Mais dites-moi, vous m'avez parlé de tout ce que vous avez vu dans la rue et vous n'avez vu, semble-t-il, que des foules inorganisées. Vous n'avez pas vu de régiment, vous n'avez pas vu de garde civile.
Quand nous avons vu le président Companis, on a vu des soldats, mais encore assez loin, et qui paraissaient être ce qu'on peut appeler l'arme au pied.
Mais le président Companis lui-même était dans une voiture... Ah,
était dans une voiture automobile découverte.
Et escorté, j'imagine.
Escorté, il y avait peut-être ce que vous appelez, je crois, des gardes civils. Mais enfin, tout le monde l'approchait.
Oui. Comment étaient-ils habillés, ces gardes civils?
Eh bien, les gardes civils avaient une casquette plate, du genre de celle de, comment dirais-je, de receveur d'autobus.
C'était probablement les gardes d'assaut, c'était pas les gardes civils.
Je vais vous dire tout de suite quelque chose qui m'a frappé, et ça je l'ai remarqué aux gardes qui étaient de faction sans doute au banc de notre hôtel. Ils étaient bien habillés, c'était un très beau garçon d'ailleurs, très brun, le type catalan très accentué, mais il était chaussé d'espadrilles.
Oui.
Oui, ça m'a frappé pour un soldat, oui. C'était assez surprenant. Mais le président était facilement abordable, car je crois me souvenir que j'étais très très près de la voiture. Je me souviens bien que c'était un homme qui pouvait avoir une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants et je crois même frisés.
Et il a fait là un discours du haut de sa
voiture. Oui, il a parlé dans sa voiture, il s'est levé, il a prononcé quelques paroles, peut-être de, je sais pas, 4-5 minutes, en espagnol évidemment. On n'a rien compris, il a été très applaudi et ensuite il est parti plus loin. Je pense que c'est dans la journée qu'il y a eu l'attaque du bureau de poste. Je pense que c'est ce jour-là.
Vous y avez assisté?
Oui, ça, je l'ai vu. J'étais
ça,
sur la place.
Sur la place,
place
la même
de Catalogne, toujours, oui.
Où était l'hôtel Colon?
Où était l'hôtel Colon? Il y avait eu, à un moment donné, il y avait eu des coups de feu qui étaient venus du côté de ce côté-là. C'était pas encore une grosse attaque qui s'est présentée plus tard à l'hôtel Colon, je crois. Les heures, je les ai oubliées un petit peu. L'attaque du bureau de poste a été quelque chose de pratiquement terrible. Ça, je l'ai vu de très très près. Vous savez, les Français sont un petit peu curieux et en somme, j'ai l'impression que la peur ne nous étreignait pas. On se rendait compte qu'il y avait quelque chose, mais enfin, on n'était pas...
Alors, comment s'est passée cette attaque?
Eh bien, je crois que ça s'est situé exactement au troisième étage, les plus durs combats. Les gens montaient, il y avait beaucoup de coups de fusil, redescendaient. On sentait qu'il y avait une défense acharnée. Ça a duré assez longtemps, je pense que ça a duré plus d'une heure.
Qui étaient les assaillants? Est-ce que vous l'avez vu ou su à ce moment-là?
C'est très difficile parce que, vous savez, je crois que les gens même qui se tiraient des coups de fusil de la place de Catalogne d'un côté ou de l'autre ne devaient pas se rendre compte exactement quels étaient les adversaires qu'ils avaient devant eux. Mais certainement qu'à l'hôtel des postes, ce n'était pas du tout pareil. L'hôtel des postes était gardé, si je puis dire. Je crois que c'était par les gouvernementaux, mais vous savez, là, je suis un petit peu...
En somme, ce qui ressort de ce récit, c'est qu'une révolution est comme... La guerre telle que la décrivait Stendhal, c'est quelque chose à quoi on ne comprend rien.
Absolument, ça. Tout au moins dans un pays étranger, et où on voit que ce sont des frères qui s'entretuent, en somme.
C'est une dame encore que je vais interroger maintenant. Je crois que votre témoignage sera un peu différent des témoignages précédents, parce que vous, si je me rappelle ce que vous m'avez écrit, vous habitiez Barcelone.
J'habitais Barcelone,
c'est
oui.
Ça. Donc vous avez vécu non seulement la première journée de la Révolution, mais les journées qui l'ont précédée.
J'y suis restée un mois. Bon. Au bout d'un mois, j'ai pu avoir un sauf-conduit pour partir.
Bon, alors ça, n'allons pas jusqu'à votre départ. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est de localiser votre témoignage dans le oui. temps et dans l'espace. Vous étiez à Barcelone et vous habitiez où cela ?
La Rambla de las Flores.
C'est-à-dire
en plein centre, c'est entre la place Catalogne et la statue de Colomb.
Bon,
c'est tout à fait le centre de Barcelone, comme les boulevards un peu.
C'est cela. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et d'abord, à quelle date a éclaté cette révolution ?
Eh bien, dans la nuit du 17 au 18, si je me rappelle bien. C'était la fête de mon mari, nous avions eu des amis à dîner, il est allé les raccompagner. Et alors on se couche très tard à Barcelone, il est rentré je crois vers 4h du matin. Et il m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe, on installe des canons à Tarassana, c'est-à-dire une place tout à fait en bas de la Rambla. Alors naturellement je me suis levée, nous habitions sur la Rambla, j'étais aux premières loges. Et j'ai vu des personnes, ça avait l'air calme, des personnes qui descendaient avec les sacs provisions, enfin qui allaient à la plage, passer la journée. Et puis au bout d'un certain temps, ces mêmes personnes remontaient la Rambla, parce qu'on ne les avait pas laissés passer. Et puis après, il y a des hommes qui sont venus au coin de la Calle del Carmen, qui était presque en face, et qui ont commencé à enlever les pavés pour faire des barricades. Il y avait une armurerie tout près, on a soulevé le rideau de fer, et ils se sont emparés de revolvers, de fusils, enfin de tout ce qu'ils ont pu. Et il y en a même qui se sont blessés eux-mêmes, parce qu'ils ne savaient pas se servir d'armes. Et puis alors après, il y avait des voitures qui ont commencé à passer, toutes recouvertes par des matelas, pour ne pas recevoir les balles qui des terrasses, certainement. Et alors, sur les voitures, il y avait marqué FAI, Fédération Anarchiste Ibérique, ou PUM, Parti Ouvrier Union Marxiste, ou CNT, Confédération Nationale des Travailleurs. Alors, ils avaient des fusils mitrailleuses, d'ailleurs, qui passaient sur le côté.
Tout et cela, c'était donc des voitures appartenant aux forces gouvernementales.
Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et alors, ils ont commencé à tirer sur ceux des barricades, les autres ont riposté, et c'est comme ça que ça a débuté. Il y avait des blessés qu'on a amenés dans une petite rue tout à fait derrière la Rambla, les premiers blessés. Et alors nous, on nous faisait descendre avec un panier attaché avec une ficelle, nous descendions de l'alcool, des pansements, ce qu'on avait sous la main. Et on nous avait demandé de mettre les radios très fort et près des fenêtres pour que tout le monde se rende compte, enfin soit au courant des opérations.
Oui.
Et toute la journée, ils ont tiré, et la journée s'est passée comme ça, parce que personne ne sortait naturellement que les combattants.
Naturellement.
Et puis la nuit, ça a continué de la même façon.
Et vous êtes resté sans sortir pendant combien de temps ?
Oh, c'est de ce jour-là. Le lendemain, il fallait aller aux provisions, naturellement. Ouais. Alors, par groupe de plusieurs femmes, nous ne sommes pas passés par la Rambla, qui ne pouvait pas être traversée, c'était impossible. Nous sommes passés par une petite rue derrière. Et alors, évidemment, on tirait bien de tous les côtés, mais enfin, par groupe, on est arrivé à acheter ce qu'on a pu tout de même. Et puis, petit à petit, les casernes sont tombées, la caserne de Saint-André, la caserne de la Montagne, enfin, plusieurs casernes des environs de Barcelone. Alors il n'en restait plus qu'une, celle d'Atarassanas, qui est en bas de la Rambla, où il y a la poudrière. Alors on nous a dit par radio que si la caserne ne se rendrait pas, on ferait sauter la caserne et la poudrière. Et alors toutes les personnes qui habitaient près, naturellement, devaient s'en aller. Et nous, nous avions ordre, nous habitions d'ouvrir, de laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Et puis les soldats se sont révoltés, ils ont obligé les officiers à se rendre, et la caserne s'est rendue.
Alors
on n'a pas besoin de rien faire sauter.
Mais dites-moi, je voulais vous poser une question sur le début de votre récit. Lorsque votre mari est remonté à 4 heures du matin en vous disant « c'est bizarre, il y a des canons,
oui.
etc. », est-ce que cela ne lui a pas semblé la suite naturelle des événements que vous aviez vécu les jours précédents, puisque vous étiez au courant ?
Oui, mais vous savez, ça paraissait très lointain et on était tellement habitués aux révolutions, puisqu'il y en avait eu l'an 34 malgré tout, qu'on ne prenait pas tellement au sérieux.
Ah, c'est-à-dire, même pour les gens qui n'arrivaient pas de
non,
la veille...
Non, c'était pas... Très souvent, on entendait, par exemple, une bombe, on se mettait au balcon, on disait, ah oui, bah, c'est une bombe qui éclatait dans tel café. On était très habitués à ça.
C'est ça, ça n'avait donc pas un côté tout à fait inhabituel.
Oh non.
Sinon que tout de même cette nuit-là, votre mari a trouvé que ça...
Oui, c'était tout de même bizarre qu'il y ait des canons, surtout qu'on installe des canons.
Qu'on installe des canons. Et ensuite, les barricades, vous ne les avez vues dresser qu'ensuite.
Ah oui.
Alors vous êtes resté, vous ne vous êtes même pas couché cette nuit-là, si je comprends bien.
Ah non, moi je ne me suis pas couché, je suis restée à la fenêtre, naturellement, ça m'intéressait.
Vous avez vraiment vu tout ce qui s'était passé?
Oui, j'ai vu tout ça.
Vous n'avez pas, comme les autres, été réveillé par la fusillade, mais
vous
avez...
Ah non, j'ai vu tout à fait le début.
Tout à fait le début. Oui. Et est-ce que vous vous rendiez compte de ce qu'étaient les forces en présence?
Oui, parce que vous... Non, pas tellement, vous savez, non.
Vous
voyez... Parce qu'on ne savait pas quels étaient les fascistes, en somme, les phalangistes, les autres. C'était très difficile de se rendre compte.
Mais pourtant, vous m'avez cité à l'instant
les voitures.
Les initiales qui étaient sur les voitures. Alors là, vous vous rendiez compte que c'était les soutiens du gouvernement.
Oui, bien sûr.
Et vous n'avez pas vu passer d'insurgés.
C'est-à-dire, on ne les reconnaissait pas.
Vous ne savez pas
comment... Comme il n'y avait pas de marque sur les voitures, il y en avait naturellement, mais pour les reconnaître, ce n'était pas très facile.
C'est-à-dire que vous voyiez passer des gens, vous pouviez distinguer ceux qui avaient les
initiales.
Les initiales que vous connaissiez, et les autres, vous ne saviez pas.
Non.
Et alors, quand les gens tiraient les uns sur les autres, de quoi vous rendiez-vous compte?
Vous savez, ils tiraient et c'était tout, on ne savait pas exactement.
Ouais. Et alors, vous connaissiez l'espagnol, vous entendiez donc ce que disait la radio.
Oui.
Alors, vous suiviez les événements.
Ah oui, naturellement.
Alors, qu'est-ce que disait la radio?
Vous savez, c'est très lointain, mais il nous tenait au courant des forces, des casernes qui tombaient, de tout ça.
Bon, c'était donc une radio qui était aux mains du gouvernement.
Ah, oui, elle était aux mains du gouvernement.
Bon.
Oui.
Et alors, elle donnait les nouvelles
du gouvernement.
Oui. Et vous n'entendiez pas les radios des autres villes?
Non.
Vous n'aviez que la radio de Barcelone.
Oui.
Eh bien, je vous remercie, madame. Le temps nous manque pour interroger l'autre témoin et aussi pour lire toutes les lettres que j'ai reçues d'un grand nombre de sportifs qui étaient en effet à Barcelone et qui m'envoient, soit de Paris, soit de province, leurs souvenirs de cette époque-là. Je dois dire que dans l'ensemble, ils concordent, mais je vais demander, avant de tenter de conclure, à Jean-Pierre Morphy, qui était dans un coin du studio et qui écoutait, qui a pris sagement des notes, de nous dire s'il a remarqué des contradictions ou, au contraire, un thème général.
Il y a des contradictions de détails, mais qui sont légères, et je ne crois pas que l'on puisse en tirer de grandes conséquences quant à la fragilité du témoignage. On peut faire remarquer que Jean Aberlé et M. Gaston ont circulé très librement alors que les deux dames que nous avons entendues ensuite prétendent que l'on ne pouvait pas sortir. Il y a, je crois, une certaine confusion de date chez la première de vos interlocutrices, mais tout cela ne me paraît pas très important. On peut simplement, je voudrais essayer de tirer deux conclusions. La première, c'est qu'en dehors de Jean Aberlé, qui sans doute a dû essayer de se renseigner plus profondément, il a été très difficile aux spectateurs de déterminer les forces en présence et surtout qui prenait part et de quel côté. Non, c'est pas d'évaluer tellement les forces, mais que de situer les origines.
Mais là, sur ce point, je pense que si l'on interrogeait Jean Aberlé, il reconnaîtrait que sans doute il s'est documenté après coup et que c'est moins sur le souvenir de ce à quoi il a assisté comme témoin que sur l'enseignement de l'histoire qu'il nous a apporté ces renseignements tout à l'heure.
Non, pas exactement, car nous ne comprenions rien jusqu'à ce qu'un régiment d'infanterie régulière occupe l'hôtel.
Ah, c'est cela.
À ce moment-là, quand j'ai interrogé un des officiers qui m'a dit « c'est la révolution » et que j'ai parlé aux soldats qui, eux, ne comprenaient rien, c'était exactement une insurrection. Et puis, quand nous avons vu sur la place le peuple en armes et la garde civile et les gardes d'assaut, nous avons très bien compris quels étaient les deux camps en présence. Mais
c'est
évidemment...
C'est votre présence au centre même de la révolution.
Nous étions au milieu de la toile d'araignée où nous avons fait rester.
Bon, je m'excuse, Jean-Pierre, de vous interrompre.
Je crois que ce que l'on peut dégager, en revanche, qui relèverait peut-être beaucoup plus de qui êtes-vous que de soyez témoin, est une tendance générale d'esprit des personnes qui sont venues vous entretenir de cet événement. Chacun a considéré que les premières détonations qu'il a entendues étaient le signe d'un événement heureux. Feu d'artifice, je crois, chez un de vos correspondants, salve en l'honneur des participants aux Jeux Olympiques, et pour les autres, une sorte de petite révolution de détails que je n'ose pas appeler révolution d'opérette, mais qu'enfin on a situé dans des limites aimables d'une action méditerranéenne.
Oui, mais il faut dire que ceci se passait il y a 20 ans, c'est-à-dire à une époque qui se situe à mi-chemin des deux guerres, à une époque où les gens ne croyaient pas encore beaucoup aux signes avant-coureurs que certains leur dénonçaient, et où en effet, on ne pensait pas que des événements d'une gravité extrême puissent jamais se produire sous nos ciels. Voilà à peu près quelle était la mentalité de l'époque. On se disait, en effet, il y a des pays où il y a des révolutions, il y a des pays où il se passe des drames, mais c'est toujours pour les autres.
D'ailleurs, on a compris dans le monde... Et surtout parmi les Français et les Anglais, on a compris l'importance et la gravité de cette guerre d'Espagne quand il y a eu l'appui et la force même allemande, italienne, qui sont venues se présenter sur le front espagnol. Alors là, on a bien compris que c'était l'enjeu de deux idéologies et le prélude d'une guerre mondiale.
Je vous rappelle, Jean Berlet, que tout le monde n'a même pas voulu le comprendre tout de suite, puisqu'il a fallu bien du temps pour que les gens s'aperçoivent qu'en effet, ceux qui disaient c'est le prélude de quelque chose de considérable avaient raison. Et alors, on peut imaginer que les gens qui arrivaient dans une atmosphère qu'ils pensaient être celle d'une fête, dans un pays où on vive beaucoup la nuit et où il y a des feux d'artifice et des fêtes tout le temps, entendant des explosions, se sont dit c'est un feu d'artifice. En effet, dans la plupart des lettres que j'ai reçues, les gens ont été réveillés à 4 ou 5 heures du matin et se sont dit tiens, c'est un feu d'artifice.
En notre honneur.
En notre honneur. Voilà, ça c'est le cri général.
Je crois qu'il faut le porter, alors si vous voulez, pour une certaine tendance du tempérament français que l'on considère d'habitude comme pessimiste et qui là s'est révélé heureux. Je crois qu'ils auraient mieux fait de se rendre compte, peut-être leur était-ce difficile, que c'était les trois coups d'une tragédie qu'on frappait.
Mais encore une fois, rappelons-nous que ceci se passait il y a 20 ans et j'imagine qu'aujourd'hui, si brusquement, arrivant en touriste dans une ville étrangère, nous entendions quelques coups de feu, nous nous imaginerions au contraire que c'est une révolution qui commence alors que ce serait peut-être le début de la chasse.
C'était Soyez témoin, une émission d'André Gillois avec Jean-Pierre Morfait, Jean Oberlé et le concours des auditeurs. Ont collaboré à cette émission Jean Guilhem et Gaston Morfait. Montage radiophonique, Jacques Guinchard.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 5 janvier 1956.